l'avez vu, vous l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Compte en commun, la Nissan 200SX, la Chrysler 200, la Dodge Colt 200 et la Mercedes B200 avec le guide de l'auto.
C'est simple, 200!
Oui, parce que c'est la 200e du guide de l'auto. Bienvenue au guide de l'auto.
Bonjour Antoine!
Salut! Oui, c'est la 200e aujourd'hui. On n'a pas l'impression que c'est la 200e, mais c'est ce que nos chiffres puis nos notes nous disent. Alors, on voulait le souligner. Et puis, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on reçoit aujourd'hui un porte-parole d'un constructeur automobile allemand dédié à la marque au Québec, Pierre Lupfunk, qui va venir nous jaser de son rôle en tant que porte-parole de Volkswagen. Mais avant tout ça, Germain, ben on va parler un peu de General Motors parce que il y a deux nouvelles qui ont suscité l'attention cette semaine. D'abord, le fait qu'on continue d'investir dans des moteurs à 8 cylindres chez GM. On n'entend parler que d'électrification, mais les V8 ont encore leur place, là, clairement.
Effectivement. Donc, chez GM, on a annoncé cette semaine l'investissement de pas moins $1 milliard dans une nouvelle génération de moteurs à 8 cylindres. Donc, comme tu le dis, on investit beaucoup dans l'électricité, dans la plateforme Ultium chez General Motors, mais on ne met vraiment pas de côté les moteurs V8. Ils semblent être là pour continuer. Ah, c'est une stratégie qui est différente de celle de Stellantis, par exemple.
Et de Ford.
Et de Ford qui de plus en plus, les élimine. Alors, voyons voir comment on pourra résister à l'évolution, finalement, chez GM.
Ben moi, en fait, tu sais, je me posais la question à savoir pourquoi est-ce qu'on se garoche littéralement dans la production de 6 cylindres biturbo compressés, que ce soit des 6 en ligne ou des V6 ou même des 4 cylindres turbo compressés pour venir remplacer des moteurs à 8 cylindres sur le marché nord-américain, lorsqu'on sait qu'un bon moteur à 8 cylindres peut consommer moins d'essence qu'un 6 cylindres. On le voit, là.
Mais on sait aussi que la réglementation d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, va varier.
Mais pas en Amérique du Nord, pas tant que ça.
Non, c'est vrai.
C'est vrai du côté de l'Europe, mais à part le Québec, qui est assez sans dessein pour taxer à la cylindrée depuis 30 ans.
Je pense que sans dessein, c'est le mot.
Oui, puis ça, écoute, j'ai discuté cette semaine avec un attaché politique de Geneviève Guilbeault. On risque d'ailleurs de pouvoir lui parler d'ici quelques semaines à propos notamment de ce dossier-là. Mais revenons à nos flûtes. General Motors, qui continue d'investir dans des V8 qui risquent d'être plus performants, plus éco-énergétiques et probablement plus éco-énergétiques que les 6 cylindres qu'on vend actuellement chez Ford.
Et probablement hybride aussi. Là.
Et probablement hybride aussi, tu as tout compris.
Voilà.
Alors c'est le moteur V8 a encore sa raison d'être, mais c'est clair qu'il faut l'améliorer parce que depuis des décennies, on nous sert à peu près la même affaire chez GM.
Le 5.3, ça n'a pas beaucoup évolué.
C'est ça. Et ça consomme pas moins que 10 ou 15 ans, voilà. À part le fait qu'on a mis des meilleures transmissions. Ça ne change pas grand-chose. Peut-être une bonne nouvelle du côté de chez GM qui, parallèlement, continue de travailler à multiplier les offres électriques. Quoique là, il y a une autre ombre au tableau qui est arrivée cette semaine. Action collective autorisée contre GM, encore une fois, en raison de problèmes reliés à la Chevrolet Bolt.
Oui, donc la Cour supérieure a donné son OK, son approbation pour l'exercice d'une action collective contre GM avec la Chevrolet Bolt, les modèles 2017 à 2022, et ça inclut bien sûr la EV et la EUV. On vise un montant de $71 000 par individu, par unité. Comment on explique ça? Ben, c'est le prix de la voiture, mais également $38 000 exigés en dommages et intérêts à titre punitif pour les fautes alléguées de GM. Donc, on y va le tout pour le tout.
Trouve ça extrêmement excessif.
Oui, ben finissons les faits d'abord et je te laisse commenter ensuite. Comment on explique la situation? Ben c'est assez simple. C'est que lorsque la problématique a été connue, on a demandé chez Chevrolet à ce que on limite la capacité de recharge à 90% et qu'on ne descende pas sous le seuil des 113 km d'autonomie pour éviter, pour, en fait, pour diminuer les risques d'incendie et de pépins avec la batterie. Quel est le résultat de ça? Ben, le consommateur ne peut pas profiter pleinement du véhicule qu'il a entre les mains. Je te laisse commenter.
Et ça, ça vaut plus cher que le prix de la voiture?
Ben, en même temps...
J'ai un peu de misère avec ça, d'autant plus qu'on a la preuve que les problèmes de la Chevrolet Bolt ont été symboliques. Il n'y a que très, très peu de voitures qui ont pris feu ou qui ont eu des problèmes en raison de ça. Puis on vient même intégrer des modèles 2022.
Oui.
Donc, Bolt EV ou EUV...
Qui, normalement, aurait été équipé de la nouvelle batterie.
C'est ça.
Là.
Alors, je trouve ça un peu particulier. Moi, j'ai... Oui, il y aura peut-être un remboursement qui sera attribuable à certains consommateurs, mais je ne peux pas croire qu'on va donner 71 000 $ à chacun des propriétaires de Bolt qui ont déboursé à peu près 30 000 $ si tu inclus les crédits gouvernementaux pour mettre la main sur cette auto-là. Ça n'a aucun bon sens.
Qu'on accorde une partie en dommage parce qu'on n'a pas pu profiter...
Commence à regretter d'avoir acheté une 2023, d'ailleurs.
Mais tu sais, est-ce qu'en cours de route, on ne pourrait pas ajouter cette année modèle-là, peut-être?
Ben,
mais
honnêtement, ça ne serait pas logique.
Est-ce qu'on pourrait dédommager une partie des propriétaires? Bon, je pense que ce serait de jouer de manière équitable.
Mais en même temps, on le fait. On les a dédommagés, les propriétaires, si tu veux mon avis. Pourquoi? Parce que la personne qui a acheté une Chevrolet Bolt 2017 ou 2018, à qui on a donné une batterie flambant neuve qui bénéficie aujourd'hui d'une meilleure autonomie que lorsqu'elle a acheté sa voiture neuve et d'une nouvelle garantie, je sais pas, mais moi je trouve que c'est quand même plus que raisonnable.
Mais pendant X nombre de mois, on s'est retrouvé avec un véhicule entre les mains qu'on ne pouvait pas utiliser pleinement.
OK, à 80%.
Oui,
Donc,
justement, qui
est... Moi, je suis pas le défenseur de GM,
mais je trouve que
là, on abuse.
Qu'il y ait une part de dédommagement, d'accord, ouais. 38 000 $ qui est plus que le prix déboursé final du véhicule, ça me paraît quand même un petit peu
excessif,
là.
Exactement.
Autre nouvelle, cette semaine, on a dévoilé la Polestar 2 2024. Bon, quand on la regarde
sur
les photos, elle est identique, mais dans sa conception, dans son architecture, c'est complètement différent. Il faut savoir que dans sa version à un moteur, la Polestar 2 était jusqu'à l'année modèle 2023 une voiture traction, donc le moteur électrique était placé sur l'essieu avant, ce qui est c'était une stratégie différente des autres véhicules électriques de cette gamme-là qui sont des véhicules propulsés lorsqu'ils sont équipés d'un seul moteur.
Ouais.
Et là, on revoit le tout et on envoie le moteur unique sur l'essieu arrière. On a également augmenté sa puissance, donc de 170 à 220 kW. Et pour ce qui est de la version à double moteur, elle aussi, elle a été revisitée. Donc, elle sera... d'abord et avant tout une voiture propulsée avec une assistance à l'avant. Là. Donc,
voilà.
Sa conception est revue au complet. On a également majoré sa puissance. Donc, des bonnes mises à jour pour 2024.
C'est assez particulier. Bon, évidemment, nous, on présentera d'ici quelques semaines la Polestar 2 2023
bien
à l'émission
sûr.
Du Guide de l'Auto, qui est une voiture à traction.
Oui.
Qui ne sera plus commercialisée, visiblement, en 2024.
Je pense que ce sera une voiture assez rare, hein, parce que beaucoup de consommateurs ont opté, justement,
ben
pour
oui.
une version à quatre roues motrices, surtout au Québec. C'est tout à fait logique. Mais
Parce que sans vendre la mèche, la conclusion qu'on a tirée de l'essai de cette voiture-là, qu'on a mis à l'essai sur le circuit de Mécaglis à Notre-Dame-la-Merci, c'est que pour quoi 5 000 $ de plus, tu as la version à rouage intégral,
voilà.
qui est immensément plus intéressante et qui ne te pénalise qu'à peu près pas en matière d'autonomie. Alors, la recommandation qu'on fait, c'est d'aller vers le modèle à rouage intégral. Parce que, de toute façon, dans nos conditions, c'est ce que tu veux avoir. Après ça, on se rend compte que sur le marché de l'électrique, la grande majorité des constructeurs qui offrent des deux roues motrices proposent des voitures propulsées.
Oui.
C'est contre nature chez nous pour le marché du Québec, mais ici, on achète majoritairement, de toute façon, de la voiture à rouage intégral. lorsque celui-ci est offert. Évidemment, oui, que sur une Chevrolet Bolt, il n'y en a pas. Ça
sur un
Kona
électrique, bon, c'est pas possible mais, non plus. Mais moi, tu sais, je suis pas ingénieur mécanique ni ingénieur électrique, mais de voir qu'une même voiture, d'une année modèle à une autre, les roues motrices passent de l'avant à l'arrière.
C'est assez particulier.
Ça fascinant. Ouais. On pourrait jamais imaginer une Volkswagen Jetta en 2023 être une voiture traction et l'année suivante être une voiture à propulsion.
C'est assez difficile.
C'est impensable, mais ouais, là, avec l'électrique, tout d'un coup, ça devient possible. Et tu te rappelleras, quand on avait présenté là, les VUS chez GM, je crois que c'était le Blazer, on nous avait dit qu'il y aura des versions traction, des versions propulsion et des versions quatre roues motrices. Ouais. Donc, on a vraiment cette latitude-là sur le plan de l'aménagement mécanique. On a une grande liberté et c'en est un bel exemple avec la Polestar.
On pourrait même faire une voiture avec une roue avant gauche motrice et une roue arrière droite motrice. Okay. Ça serait bizarre, mais
ça serait assurément bizarre. Est-ce que ça serait fonctionnel?
Ça irait mal un peu. Hein?
Je l'ignore. Tu peux en parler aux ingénieurs chez Hydro-Québec là, qui ont planché sur le moteur roue.
Mais hein, tu sais, si tu tournes tout le temps à gauche, peut-être que ça va bien.
Mais à Montréal, on tourne en rond. Alors ça, c'est une autre histoire.
Bon, c'est ce qui s'en vient chez Polestar. Puis évidemment, ça va arriver à peu près en même temps que le VUS Polestar 3, qui est très attendu lui aussi.